Radio Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore et merci à vous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Comment prévenir les conflits dans les aires, les conflits autour des aires protégées en République démocratique du Congo? Maître Félix Lilakako, coordonnateur du projet Bengo, le projet qui travaille pour le respect des droits des peuples autochtones. Il est avec nous dans ce studio. Maître Félix, bonjour.
Bonjour, Monsieur Goudi.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission avec l'assistance de Louange Vangou. Et puis à la technique, nous avons Willem Lungamba. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons des communautés riveraines. Eh bien, les communautés riveraines des aires protégées de la RDC vivent souvent dans la pauvreté et les dénuements totaux. Alors, ces communautés dépendent fortement des ressources forestières pour leur survie. La chasse, et ça donne à la chasse pour avoir les gibiers. Dans la forêt, ces communautés trouvent le bois d'échauffe, les plantes médicinales, les matériaux de construction, etc. Alors, certains transforment les forêts en espaces cultivables. Donc, toute leur vie dépend de la forêt. Alors, cette forte pression sur les forêts est souvent à l'origine des conflits entre les communautés et les éco-gardes. Et en outre, beaucoup de violations des droits de l'homme sont souvent enregistrées autour des aires protégées de la RDC. Alors, comment prévenir, que faire pour prévenir ces conflits autour des aires protégées? Et on en parle avec Maître Félix Lilakako, coordonnateur du projet Bengo, qui est un projet qui travaille pour le respect des droits humains des peuples autochtones autour des aires protégées. Maître Félix, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Goudi.
Alors, parlez-nous d'abord du projet Bengo. De quoi s'agit-il?
Oui, le projet Bengo, qui est un acronyme en allemand, c'est un projet qui vise justement à accompagner les communautés locales, les peuples autochtones qui vivent tout autour des aires protégées dans le respect de leurs droits. C'est un projet qui est implémenté en Afrique centrale dans trois pays, en Centrafrique, au Cameroun et en RDC. Et en RDC, le projet est implémenté particulièrement autour du parc national des Salonga. Le parc national des Salonga qui est une des aires protégées les plus importantes en considération des espèces et en considération de sa valeur écologique et de sa superficie en RDC. Et donc, vers les années, il y a 2 ou 3 ans, même plus que ça, il y a eu plusieurs allégations des cas des violations de droits de communautés locales liées notamment à la gestion de l'air protégé. Et donc, tous ces cas de violations ont été partagés par la presse.
Quel genre de violations?
Alors, il y a plusieurs genres de violations de droits. Il y a eu des coups et blessures pour lesquels les communautés ont été victimes. On a même rapporté des cas de vol, d'extorsion et même de viol. Alors, ce qui a fait que ces situations ont fragilisé un peu les efforts de conservation qui ont été développés depuis très longtemps autour de ces terres protégées. Et au regard de tout cela, il fallait trouver une solution pour voir comment résorber un peu la situation, comment assurer une gestion de l'air protégé en équilibre avec les droits de communauté et des peuples autochtones qui vivent tout autour. C'est dans cette optique que le projet Bengo a vu le jour, appuyé par le gouvernement allemand avec certaines ONG internationales, justement pour assurer qu'effectivement la gestion de l'air protégé soit faite de manière paisible et que les communautés locales qui y vivent tout autour trouvent leur compte dans le respect de leurs droits.
Et qu'est-ce qui est souvent à l'origine de ces conflits entre les communautés locales et les éco-gardes?
Alors, l'analyse que nous avons menée préalablement fait état du fait que, premièrement, d'abord, il s'agit d'un problème de méconnaissance de la loi, méconnaissance de la loi sur la conservation, sur les aires protégées, et de la part des communautés, mais aussi de la part des agents qui sont commis à la sécurisation, à la protection du parc. Alors, il fallait faire un état de lieu pour voir quels sont les textes juridiques pour lesquels ils ont besoin pour comprendre. Mais deuxièmement, c'est aussi un problème de clarification des limites des aires protégées, parce que la particularité, c'est que la plupart des aires protégées de l'RDC ont été créées vers les années 30, 50, 70, ainsi de suite. Et donc, avec le temps, il y a un problème de délimitation, ce qui fait que les communautés ont leur compréhension par rapport aux limites de l'air protégé. Mmh. Et dans l'entretemps, les agents commis, les gardes de parc, ont aussi les leurs. Ce qui fait que une aire protégée, en fait, étant des natures, un espace qui est protégé, un espace de forêt qui est protégé par l'État au moyen d'un acte de classement, et donc il est interdit aux communautés d'y accéder. Voilà, justement pour permettre à ce que tout ce qui est à l'intérieur puisse se développer pour assurer la sécurité, la protection de ces espèces. Et donc ces deux éléments ont de temps à autre été à la base des différents conflits entre les peuples autochtones et les communautés qui sont tout autour de leurs protégés.
Parce que les communautés veulent accéder et les éco-gardes ne veulent pas les laisser faire.
Voilà. Et c'est dans cette application de la loi, c'est dans cette phase d'application de la loi qu'il y a plusieurs faits qui se commettent. Et donc, c'est dans cette optique-là que le projet a vu le jour. Le projet qui vise à mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes et des recours. C'est-à-dire que, finalement, face à toutes ces situations, il aurait fallu mettre en place une organisation indépendante, un mécanisme indépendant qui facilite à ce que les communautés et les peuples autochtones adressent tout ce qu'elles ont comme plainte, comme recours par rapport à la violation de leurs droits. Et c'est comme ça que une organisation indépendante nationale, dénommée Juriste pour l'environnement au Congo, JUREC, pour laquelle nous avons la destinée, a été identifié pour travailler avec ces communautés autour de l'air protégé pour mettre en place ces mécanismes de gestion de plaintes.
Alors, quelle est la solution? Il y a des conflits, les communautés veulent accéder aux aires protégées, les éco-gardes les empêchent. Et finalement, c'est quoi la solution?
Alors, la solution, c'est qu'il faut connaître la loi. Et vous savez que notre système juridique est clair, c'est que nul n'est censé ignorer la loi, que l'on soit membre d'une communauté, que l'on soit éco-garde, autorité politique, ainsi de suite. Nous sommes tous en dessous de la loi. Et pour ce faire, le projet commence d'abord par sensibiliser les communautés, apporter de l'information aux communautés, leur démontrer en fait ce que prévoient les cadres juridiques au niveau national et international, présenter aux communautés leurs droits, qu'elles sachent voilà nos droits, mais aussi leurs obligations. Et de manière parallèle, travailler aussi avec les agents de parc, parce que il suffit pas seulement d'appliquer la loi, mais lors de l'application de la loi, il faut respecter scrupuleusement les droits humains des communautés, surtout qu'il s'agit des communautés locales et des peuples autochtones pour lesquels les instruments juridiques nationaux et internationaux assurent une certaine protection.
Donc, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, dans quel parc où il y a eu des soucis et comment est-ce qu'on a pu résoudre ce problème?
Alors, l'ONG JUREC travaille spécifiquement autour du parc national de Salonga. c'est effectivement l'un des parcs, pas le seul, mais l'un des parcs où il y a eu des soucis.
Qui se retrouve à l'ouest.
Hein. Bon, qui se retrouve à l'ouest et qui a connu beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que le parc est sorti du site de patrimoine mondial en péril avec les avancées. Donc, il fallait nécessairement travailler sur cet aspect-là pour voir comment créer un climat de paix.
C'était quoi le vrai problème dans ce parc-là?
Alors, le vrai problème, c'est que, comme nous l'avons dit dès le départ, dans la gestion de l'air protégé, les communautés ont été victimes de plusieurs cas de violations dont on a fait allusion tout à l'heure là. C'est-à-dire que ce soit autour du parc et même à quelques kilomètres en dehors du parc, les communautés ont rapporté plusieurs cas de violations de leurs droits. Et face à cette situation, il fallait trouver un mécanisme pour résoudre un peu, pour réduire un peu la violation de ce droit-là et assurer effectivement un climat favorable. C'est comme ça que, dans le cadre de ce projet, le premier travail, comme je l'ai dit, consiste d'abord à apporter de l'information au niveau de communauté, mais aussi au niveau des gestionnaires de l'air protégé et à ceux-là qui sont commis à la garde de l'air protégé. Dans cette optique d'apporter de l'information sur les textes juridiques en lien avec les droits de communauté, la protection de l'environnement, la gestion de l'air protégé, ainsi de suite, le projet implique également les autorités politico-administratives locales, appelées ainsi à intervenir de temps à autre. Et donc nous pensons que cette phase était vraiment une phase préliminaire parce que une fois que les communautés connaissent leurs droits, il faut qu'elles connaissent également leurs obligations, elles sont capables de juger de la pertinence ou pas d'aller porter les cas devant le cours des tribunaux ou devant le mécanisme de gestion des plaintes, mais aussi de voir comment est-ce qu'elle devait arriver à respecter effectivement les normes de gestion durable de l'air protégé. Et de manière parallèle, il est aussi important que ceux-là qui sont appelés par l'État, qui sont investis de ce pouvoir de conserver, de sécuriser l'air protégé, connaissent aussi leurs droits et aussi les limites de leurs droits vis-à-vis de communautés, que ces personnes sachent que dans le processus de sécurisation, de protection de l'air protégé, elles sont appelées à respecter les communautés locales et les peuples autochtones qui y vivent, même si les gardes des parcs devaient appliquer la loi, mais ce serait dans le respect strict de procédures de droits humains.
Faut-il laisser ces communautés pénétrer la forêt et aller couper les bois ou faire la chasse?
Bon, généralement, ce sont des accusations qui dépassent même les limites du tolérable. Parce qu'en fait, nous sommes partis du postulat où les communautés vivaient dans l'ignorance de la loi. C'est-à-dire que, bon, elles se réveillent un bon matin, elles apprennent. Parce qu'à l'époque, la création des aires protégées ne respectait pas autant de procédures qu'aujourd'hui, avec la loi de 2014, où pour créer l'aire protégée, il est notamment exigé, hormis les études d'impact environnemental,
le zonage, tout ça,
mais aussi d'impliquer les communautés locales dans la gestion, dans le processus, pardon, de création de l'aire protégée. Alors qu'en son temps, cela ne fut pas le cas. Et donc, cette ignorance-là a fait de sorte que les communautés locales agissent effectivement dans l'ignorance. C'est comme ça que nous nous disons, avant d'abord de faire porter toute la responsabilité aux communautés, il est important de leur apporter de l'information, que les communautés sachent, qu'elles comprennent ce que disent les lois par rapport à la gestion de l'air protégé, et c'est alors qu'elles sauront organiser leurs actions, leurs réactions vis-à-vis de l'air protégé. C'est comme ça que dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de gestion des plaintes et recours qui vise effectivement à ouvrir une sorte de bureau de consultation gratuite qui permette aux communautés de venir adresser effectivement leurs plaintes, leurs doléances par rapport à la violation de leurs droits humains relatifs à la protection, la sécurisation de leurs protégés.
Donc, ils peuvent venir se plaindre pour dire que voilà, on a été victime de ceci ou cela. On a été battu, les femmes ont été violées. Et comment vous allez gérer ces plaintes?
Alors, parce que le mécanisme ne remplace pas le cours des tribunaux. Comme vous le savez, toute violation d'un droit est susceptible d'être adressée devant le cours des tribunaux. Mais ce que nous faisons, c'est que l'ambition d'abord de mettre en place un mécanisme, c'est d'arriver à créer un climat de paix entre les peuples autochtones et les communautés, ainsi que les agents de parc ou ceux qui sont commis à la gestion de l'air protégé. Alors, dès que les plaintes nous arrivent comme ça, parce que nous en avons reçu quelques-unes, nous arrivons à écouter d'abord les membres de la communauté. Et après les avoir écoutés, nous cernons en fait, nous faisons l'analyse pour voir si c'est des plaintes qui sont orientées vraiment vers la gestion de l'air protégé et sur la violation de droits, ou alors si c'est d'autres plaintes.
Alors, si parlez-nous par exemple de la dernière plainte que vous avez reçue.
Alors,
il s'agissait de quoi?
Alors, dans le processus de traitement de ces plaintes, parce qu'il s'agit de plaintes qui touchent directement les communautés, l'approche que nous utilisons, c'est d'abord une approche qui est frappée par la confidentialité, parce qu'il faudrait pas aujourd'hui que je vienne vous dire non, monsieur Gaudi, voilà tel membre de la communauté venir nous dire ceci, cela. Alors, ce que nous faisons, c'est que quand les communautés arrivent, nous recevons des plaintes et nous les analysons. Par la suite, nous engageons des discussions directes avec ceux qui sont chargés de la gestion des aires protégées, sans pour autant citer expressis verbis le nom ou la qualité du plaignant. Mais nous discutons sur les faits et nous leur donnons l'occasion de voir comment analyser et donner à la fois des sanctions, si ça est des sanctions administratives, ou alors si nous trouvons qu'il n'y a pas de solution après X, Y temps, nous aidons les communautés, nous les conseillons, nous les orientons vers les cours et tribunaux afin qu'ils présentent leur dossier devant les juges, parce que c'est là qu'ils auront le droit de se faire indemniser. Alors, l'avantage de ce processus que nous mettons en place, c'est que nous y travaillons pour éviter qu'il y ait effectivement un climat de bras de fer, un climat de conflit perpétuel et permanent entre les communautés et les gestionnaires de l'air protégé, parce qu'ils sont appelés à vivre ensemble. Aujourd'hui, l'expérience a démontré au niveau international que la bonne gouvernance, la bonne gestion de l'air protégé ne peut pas se faire par l'État seul, par l'agence de gestion des parcs seul, mais avec les communautés. C'est comme ça que, dans le cadre de ce processus, nous donnons beaucoup plus de temps à la médiation, à la conciliation, pour arriver à faire régner un climat de paix, de telle sorte que l'air protégé soit géré de manière durable, avec l'implication des différentes parties prenantes, dont les communautés et les peuples autochtones.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Comment prévenir les conflits ou gérer les conflits autour des aires protégées de la RDC? Héritier Ouamenga, vous êtes à Kisangani, Emina Mwanda à Bukavu et Laurent à Kananga. Pour participer à cette émission, on fait des auditeurs, composez les 081 890 63 94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Bien, comment gérer et prévenir les conflits autour des aires protégées? Héritier Ouamenga de Kisangani, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à l'invité.
Quelle est votre question?
Moi, je pense que la politique environnementale de la RDC est à la base du conflit aux alentours des aires protégées. Pourquoi? Parce que nous sommes au Congo, mais nous avons des patrimoines déclarés patrimoine mondial. Comment pouvez-vous m'expliquer que nous avons des étendues qui sont gérées par les étrangers au Congo, pendant que le peuple autochtone a droit d'y accéder, par exemple, lorsque nous sommes au parc? Il y a les activités de chasse pour la survie qu'on ne peut pas empêcher aux autochtones. Si nous voyons des mouvements de l'autodéfense aujourd'hui se mettre parti par là, c'est parce que le peuple autochtone est privé de ce droit d'accéder dans le patrimoine national qui est déclaré patrimoine international. Mais lorsque les étrangers qui gardent ce patrimoine accèdent et l'exploitent, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a les autochtones qui veulent y accéder, il y a un problème. Moi, je pense que l'État devrait recadrer sa politique environnementale, surtout sa politique bilatérale et multilatérale dans le cadre du patrimoine, pour ne pas priver le peuple autochtone de ce droit d'accéder dans le patrimoine national sous prétexte de patrimoine mondial.
Merci. Emina Mwanda de Bukavu, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi et à l'équipe que vous accompagne.
Quelle est votre question?
Ma question réside d'abord sur de mesures prises pour bien renforcer la protection des aires protégées. Parce que moi, je prends l'exemple de de Chabouna. Moi, je suis ici dans un village appelé Ndouma. Et c'est un village qui partage les limites avec le parc national de Kaou du Biega. Là, il y avait de véritables conflits, il y avait des problèmes. Il y avait même des ateliers qu'on avait organisés pour bien gérer ces conflits. Même ici, les journalistes, le conflit persiste parce que le gouvernement a aussi une part de responsabilité quant à ça. La population peut se trouver parce qu'il y a, quand je prends l'exemple de notre village Ndouma, la population est habituée de vivre de la chasse, par exemple de la culture. Mais quand vous venez, du coup, on trouve que la population est en train d'entrer dans le parc ou soit dans d'autres aires protégées et vous trouvez des résolutions. Et vous, il faut déménager la population en question. Et vous allez le mettre où? Et le gouvernement peut toujours dire à la population de quitter, mais sans pour autant avoir de mesures d'accompagnement, comment le gouvernement peut prendre en charge cette population-là. C'est pour cela que, avec cette occasion, j'ai pris à l'invité là au studio de nous expliquer clairement que nous sommes jusqu'à quel niveau pour bien, parce que ce sont les heures là qui peuvent nous être utiles, soit qui peuvent vraiment nous aider à beaucoup de choses. Nous savons très bien que les touristes viennent et partent par là pour visiter certaines aires protégées. Mais quels sont les mécanismes, soit les mesures d'accompagnement que le gouvernement est en train d'envisager pour bien protéger efficacement ces aires?
Voilà les alternatives. On les empêche de ne plus accéder à la forêt, mais qu'est-ce qu'on leur propose? Bien, Laurent, vous êtes à Kananga. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, merci à l'invité aussi. Bonjour à toute la nation. Bon, je pense que cette question, elle est très technique et doit être résolue techniquement. Je pense, pour mieux préserver ces conflits, il faudrait la mise en place d'une bonne politique environnementale et aussi un cadre légal serait mieux pour éviter tous ces conflits. Et la question que moi je peux poser à l'invité est à protéger quelles sont les conditions pour créer une forêt dans un pays. Merci.
Bien, on va lire rapidement la réaction de l'ingénieur Prosper depuis Kindou sur Facebook. Je suis témoin d'un conflit qui perdure depuis la création du parc national de la Lomami, où la population riveraine vit de la chasse surtout, mais avec la création du parc, cette population ne sait plus quoi faire pour trouver surtout à manger, car c'est depuis leurs ancêtres qui se sont habitués à cette vie. Et cette population est confrontée aux énormes difficultés, entre autres manque des routes, pas d'hôpitaux, ni centres de santé, pas des écoles primaires et secondaires. Donc, leur activité principale, c'est la forêt. Question, quelles sont les études qui sont menées pour arriver à créer un parc dans une partie de la forêt? Avant la création d'un parc, y a-t-il une commission d'experts qui se charge de la conception des activités alternatives pour les populations riveraines? Suggestion, il y a un ingénieur qui a travaillé sur les activités alternatives pour la population riveraine du parc de la Lomami, mais hélas, le projet souffre de manque de financement. Préoccupation, la population riveraine du parc de la Lomami suspecte l'exploitation minière dans ce parc par le chef du site de l'ICCN. Le gouvernement doit se pencher sur cette question. C'est l'ingénieur Prosper depuis Kindou qui nous l'a dit. Maître Félix.
Merci beaucoup. Merci aux auditeurs pour l'intérêt qu'ils manifestent sur toutes ces questions. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir toute cette dynamique de la population autour des questions de la gouvernance, de la biodiversité. Ça, c'est déjà assez important. Peut-être pour commencer avec l'ingénieur qui nous a écrit à partir de Kindou. Merci beaucoup. D'abord, le principe est que dans une aire protégée, aucune activité ne peut se réaliser. Aucun droit à l'exercice d'une activité, notamment l'exploitation minière, ne peut être protégé, ne peut être exercé. En fait, l'aire protégée des natures, et selon ce qui est prévu par la loi, c'est que c'est une partie de forêt, mais qui est classée. Cette partie est classée à travers un acte de classement de l'autorité. Et en classant cela, aucune autre activité ne peut être exercée dans une aire protégée. Sauf quelques dérogations prévues par la loi. La loi dit que s'il faudrait qu'une activité soit réalisée dans une aire protégée, d'abord il faudrait qu'il y ait des études d'impact environnemental et social. C'est-à-dire les études doivent démontrer qu'effectivement l'activité qu'on veut mener dans une aire protégée n'aura pas d'impact sur l'environnement, mais aussi sur les communautés tout tout autour. Et deuxièmement, c'est la condition la plus stricte, c'est que cela doit être approuvé en Conseil des ministres. Et donc, s'il y a une activité d'exploitation minière autour ou dans une aire protégée, cela est déjà interdit. Et je pense que l'agence chargée des protections des parcs, notamment l'ICCN, est appelée rapidement à intervenir par rapport à cela. Et deuxièmement, pour porter effectivement certaines clarifications, c'est que peut-être dans la procédure de création d'une aire protégée actuellement, pour les cas par exemple du parc national de Lomami, qui figure parmi les aires protégées qui ont respecté la majorité de procédures, sinon toutes les procédures, c'est qu'il y a non seulement l'identification des lieux, mais il y a également les études qui doivent être menées, les études socio-économiques, pour voir quelles sont les communautés qui vivent tout autour, est-ce qu'il y a une possibilité de les déplacer, ainsi de suite. Quelles sont les espèces qu'il y a là-dedans? Est-ce que ces espèces-là nécessitent une certaine conservation pour des biens à la fois de la protection, mais aussi plus tard de la conservation de la biodiversité, de l'écotourisme, ainsi de suite. Mais c'est aussi de s'assurer qu'effectivement, il y ait une certaine sensibilisation de communauté, une certaine information apportée au niveau de communauté. Mmh. Et c'est ça aujourd'hui qui figure parmi les exigences. Alors, la politique environnementale, disait Héritier, est à la base des conflits. Oui et non. Oui, parce que effectivement, si cette politique n'est pas comprise par la communauté, elle sera susceptible de générer les conflits. C'est ça le travail que nous faisons, c'est de discuter avec les communautés, discuter avec les populations, essayer un peu de les sensibiliser, de leur apporter de l'information sur ce qui est prévu par les cadres juridiques. Parce qu'en fait, les domaines de la conservation figure parmi les domaines qui sont très développés au niveau international. Le tout est parti déjà de 72 lorsque les États sont retrouvés à Stockholm pour voir comment définir des règles pour sauver la planète, les espèces par rapport à ce qu'il y avait. Mais 20 ans plus tard, c'est à Rio de Janeiro que les textes de base ont été posés. C'est-à-dire que les États s'étant retrouvés, il y a eu notamment la Convention sur la diversité biologique qui a été adoptée. Et cette convention a donné des orientations aux États afin de prendre des mesures au niveau interne pour sauver en fait la planète par rapport à ces espèces. Il y a eu plusieurs conventions. La première, c'était sur les changements climatiques qui se poursuit. La deuxième, c'était sur la désertification. La troisième, sur la biodiversité. Alors, c'est à partir de ces engagements que le pays a pris au niveau international, dont la RDC, que nous sommes appelés au niveau interne à prendre des mesures, à la fois administratives, à la fois des mesures législatives, pour assurer la gestion. Mais cela n'exclut pas le respect des droits des communautés locales. Cela n'exclut pas que
Quels sont leurs droits? Quels sont les droits de ces communautés riveraines?
D'abord, en fait, les communautés locales qui vivent dans les forêts, parce que il faut pas oublier qu'un parc, c'est d'abord au début une forêt. Mmh. Et donc, les communautés ont, dans la forêt, dans sa globalité, le droit des charges, des ramassages, ainsi de suite. Mais lorsque, par ailleurs, une forêt est classée, subit un acte de classement, les communautés n'ont plus le droit d'y accéder au parc. Mais tout autour de la communauté, tout autour du parc, il est créé ce qu'on appelle une zone tampon. Une zone tampon qui permettra aux communautés de voir comment exercer toutes leurs activités, notamment chasse, pêche, quête, ainsi de suite. C'est ça en fait la partie.
Donc on leur laisse une partie.
On leur laisse une partie pour qu'elles continuent effectivement à vivre, mais sans pour autant porter atteinte aux espèces qui sont protégées. Et deuxièmement, tout en leur laissant cette partie, les communautés sont également appelées à respecter, notamment le respect de l'habitat de certaines espèces qui sont protégées. Donc, autour de la zone tampon, les communautés ont pour avantage notamment d'effectuer la pêche pour les biens de la consommation,
l'agriculture,
ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est un peu ça.
Et on parle de plus en plus des activités alternatives.
C'est ça, alternatives. Alors, les activités alternatives sont notamment appuyées et par l'agence de gestion de l'air protégé, notamment par l'ICSN, mais aussi par certains bailleurs, par certains partenaires. C'est comme ça que l'un des auditeurs voulait savoir finalement quelles étaient les mesures prises pour la protection de l'air protégé, ainsi de suite. Donc nous relevons que lorsque une aire protégée est créée sous forme d'un parc, ainsi de suite, ce qui est prévu, c'est que le pays fait appel à plusieurs partenaires, comme ça s'est fait partout ailleurs, pour l'accompagner dans cet exercice-là. C'est alors que les partenaires viennent avec des appuis, notamment pour développer des activités alternatives tout autour de leurs protégés, mmh, et pour assurer qu'effectivement...
Par exemple, on parle des foyers améliorés.
On parle de foyers améliorés, continuer à voilà, on parle de petites cultures vivrières, on parle de petits élevages de bétail, ainsi de suite, pour assurer qu'effectivement, les communautés ne font pas de pression sur le bois en développant les foyers améliorés, mais aussi à travers des élevages de la cour, ainsi de suite, pour éviter de faire pression aux espèces qui sont protégées dans leurs protégés.
Voilà. Comment prévenir les conflits autour des aires protégées de la RDC? On en parle dans cette émission avec Maître Félix Lila Kakao, coordonnateur du projet Bengo, qui travaille sur le respect des droits de peuples autochtones autour riveraines, autour des parcs. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Comment prévenir, gérer les conflits autour des aires protégées de la RDC? Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité, ainsi qu'aux auditeurs.
On vous écoute.
Moi, je pense que, au-delà, après avoir encadré la politique environnementale, comme ont proposé les uns et les autres, on ne devrait pas aussi oublier à sensibiliser toujours les gardiens, les éco-gardes, parce que la population est en train d'observer. Les mêmes éco-gardes qui interdisent la population de ne plus y pénétrer, ils sont aussi à la base des bachires, des braconnages, notamment clandestinement, ils font du n'importe quoi. Voilà pourquoi j'aimerais proposer à ce que les mêmes éco-gardes devraient aussi prêcher par des bons exemples.
Bien, merci Charles. Maître Félix.
Oui, merci Charles.
Un instant, il y a un autre qui vient de s'ajouter, Esokoa depuis Kindu. Bonjour Esokoa.
Bonjour monsieur, bonjour donc à l'invité qui est au plateau de la Radio Capi.
Quelle est votre question?
Moi, je vais aller au même sens avec mon confrère de Kindu qui a donné les messages là-bas. Moi, je pense que les parcs de l'Omami qui créent aujourd'hui des aires de conflit avec le gouvernement. Vous savez que le peuple autochtone, hein, leur vie, c'est la nomadisme. Ils vivent moyennement la chasse. Mais c'est déjà aujourd'hui, on a créé ce parc de l'Omami. En tout cas, ça crée encore des difficultés et des conflits. Moi, je ne sais pas pourquoi on a créé ces parcs-là. Les gens sont là, ils vivent à cause de la chasse, à cause de la pêche. Moi, j'étais récemment au niveau, donc, au niveau du parc là-bas. Il faut voir comment est-ce que les gens sont en train de vivre. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement avait prévenu pour ces gens. D'ailleurs, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas étudié. Les premiers hommes illettrés dans le monde. Mais ils vivent moyennant ces pêches-là. Mais aujourd'hui, on a créé le parc de l'Omami. En tout cas, monsieur, j'ai dit, je voulais assez que l'invité puisse nous éclaircir. Parce que nous sommes dessus avec la vie de ces gens-là. Ils sont appelés des autochtones, mais leur vie, c'est pour la chasse. Mais aujourd'hui, on a créé encore le parc de l'Omami. C'est pour déstabiliser ces gens-là. Alors que on ne sait pas quelle autre vie qui doivent encore vivre. C'est pourquoi je voulais dire au gouvernement, il faut régler la vie donc de ces gens, parce que c'est gravité. Hein? Merci beaucoup.
Bien, merci, maître Félix.
Oui, merci à Charles, merci à Esoko à partir de Maniema. Je pense que c'est que Charles Kisimba a évoqué à partir de Lubumbashi, c'est très pertinent, c'est la sensibilisation à la fois des communautés, mais aussi des éco-gardes. En fait, c'est la
parce qu'il dit que les éco-gardes font aussi des bavures.
Absolument, parce que ce n'est pas dit que parce que les éco-gardes sont commis à la sécurisation, à la protection de l'air protégé, qui deviennent au-dessus de la loi ou qui ne sont pas passibles de sanctions. D'ailleurs, la loi prévoit effectivement qu'en cas de bévue par les éco-gardes, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Et dans le cadre de ce travail, notre sensibilisation ne touche pas seulement les communautés, mais aussi les éco-gardes qui doivent être accompagnés dans le cadre de la lutte anti-braconnage, mais aussi dans le cadre du respect des droits humains. Les éco-gardes doivent comprendre effectivement qu'est dit la loi, quelles sont les limites aussi de leurs actions.
Mais est-ce qu'ils sont formés au préalable? Ils sont sensibilisés par rapport au prescrit de la loi?
Ils sont sensibilisés parce que au niveau de l'ICCN, il y a tout un mécanisme, il y a toute une direction qui est chargée effectivement de droits humains, une cellule de droits humains qui assure qu'effectivement, après tous ces cas qu'on a adressés à l'Institut de violation de droits humains, que non seulement les communautés sont sensibilisées, mais aussi les éco-gardes qui suivent des formations rapprochées sur la lutte anti-braconnage, sur les droits humains, ainsi de suite. Et ils ont même des lignes directrices des éco-gardes, ils ont des normes qui sont prévues pour se faire. Et je pense que je suis très d'accord avec l'invité, que la sensibilisation ne devait pas seulement s'arrêter au niveau de communauté, mais surtout au niveau de ceux-là qui sont commis à la garde des parcs, à la protection du parc, ainsi de suite. Et pour le deuxième invité qui veut savoir finalement c'est quoi le mobile qui a poussé à la création de l'air protégé, ainsi de suite.
Les gens sont habitués, ils vivent depuis longtemps de la forêt. Aujourd'hui, on crée une aire protégée, il n'y a pas d'école tout autour, pas de centre de santé, etc.
Alors, il faudrait faire la part des choses entre deux réalités. C'est que la forêt en tant que telle constitue la propriété de l'État qui en dispose dans le respect effectivement des droits de communauté. Mais deuxièmement aussi, la création d'une aire protégée devait répondre notamment aux besoins de protection, de sécurisation et même de la multiplication de certaines espèces qui sont en voie de disparition. Et donc lorsque l'État constate qu'effectivement, dans un coin, il y a certaines espèces endémiques qui sont en voie de disparition, qui nécessitent une certaine protection renforcée, l'État crée l'air protégé. Mais comme nous l'avons dit dès le départ, la procédure de création de l'air protégé ne devrait pas faire souffrir les droits des communautés. C'est comme ça que dans cette procédure, non seulement que les communautés doivent être sensibilisées, informées, mais le gouvernement a aussi l'avantage, a aussi l'obligation, comme nous l'avons dit, de créer des mécanismes alternatifs, de mettre en place effectivement une zone tampon où les activités devaient être développées. Et pour les cas qui est en train d'être soulevé tout à l'heure là, je pense que il est plutôt question de faire la part des choses entre la charge qui incombe à l'ICCN en tant que organe de gestion des aires protégées, mais aussi la charge du gouvernement dans sa mission régalienne traditionnelle de construire des écoles, ainsi de suite, parce que au sein du gouvernement, les actions sont réparties par compétences. Donc l'ICCN qui gère l'air protégé ne serait pas appelé à la fois à construire des écoles. Il est de devoir de l'État d'arriver effectivement à mettre toutes ces communautés dans de bonnes conditions, parce que ce serait inacceptable que les communautés vivent autour d'une aire protégée qui constitue une grande richesse et de manière paradoxale que l'on sente une pauvreté assez extrême, comme nous disent les auditeurs. Donc je pense que c'est vraiment un plaidoyer de voir comment est-ce que autour de l'air protégé, le gouvernement devait mobiliser les moyens pour permettre à ce que les communautés soient occupées à travers des activités alternatives, mais aussi cette occupation permettra à ce que qu'il y ait moins de pression sur l'air protégé et que les activités de conservation se déroulent sans beaucoup plus de peine, quoi.
Voilà, nous parlons de la prévention des conflits autour des aires protégées. Nous recevons Maître Félix Lila Kako, coordonnateur du projet Bengo, qui travaille pour le respect des droits humains de peuples autochtones autour des aires protégées. Vous avez des questions et préoccupations, eh bien appelez au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneur ou encore leader communautaire. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Comment prévenir les conflits autour des aires protégées? On en parle aujourd'hui avec Maître Félix. Alors, Maître, on peut dire que c'est seulement autour du parc de la Salonga où il y a beaucoup ces genres de cas ou bien c'est ça touche presque toutes les aires protégées de la République?
Je n'aurais pas la prétention de dire que ça touche toutes les aires protégées, mais ce qui est évident, c'est que dans bon nombre d'aires protégées en République démocratique du Congo, sont évoqués ça et là quelques cas de violations de droits humains. C'est pour ça que le mécanisme qui est mis en place, ensemble avec même l'ICCN qui est chargé de l'aire protégée, vise à développer des stratégies pour voir comment arriver à résoudre toutes ces pressions que subissent les communautés, mais aussi assurer qu'effectivement l'aire protégée soit gérée ensemble avec les communautés et les gestionnaires de l'aire protégée, parce que on ne peut pas oublier le fait que l'ICCN a le mandat de gérer l'aire protégée dans sa globalité. Mais au-delà de cela, s'il y a des cas de violation de droits humains, il est important effectivement que les communautés adressent leurs plaintes. Il est important de les amener à trouver des moyens de médiation, de conciliation, pour que la gestion soit vraiment une gestion harmonisée et harmonieuse entre les communautés et leurs protégés. Et vous vous rendez compte, par exemple, que dans certaines communautés, il y a des communautés qui vivent très loin des aires protégées, mais qui ont certains cas de conflits, et à raison des distances, qui n'arrivent même pas à venir présenter leurs plaintes. Et dans le cas de ce projet, nous avons identifié au sein de la communauté les membres de la communauté qu'on qualifie de moniteurs communautaires. C'est-à-dire, nous aidons les communautés elles-mêmes à identifier entre elles certains des membres qui ont une certaine crédibilité, qui ne sont pas impliqués dans des activités subversives contre l'aire protégée. Et ces moniteurs communautaires sont identifiés comme des personnes de confiance au sein de la communauté, auprès de laquelle les communautés peuvent aussi venir confier des cas de violation, mais aussi partager des difficultés. Et elles, ces moniteurs, auront la tâche d'accompagner ou d'adresser les plaintes des communautés au niveau du bureau pour que nous puissions en discuter avec leurs protégés. Donc le mécanisme, en fait, c'est un outil très important qui peut arriver à résoudre beaucoup de problèmes dans la gestion de leurs protégés, notamment le problème de méconnaissance de la réglementation sur leurs protégés, mais aussi le problème de la compréhension de gestion des rapports entre les communautés et les gestionnaires de l'aire protégée.
Mais est-ce que vous organisez aussi des rencontres entre les deux parties pour échanger sur les problèmes qui surviennent et trouver des solutions ensemble?
Effectivement, c'est vraiment important. Nous organisons des rencontres entre les deux parties auxquelles nous sollicitons également l'implication des autorités administratives, comme les administrateurs des territoires, et ainsi de suite. Il faudrait relever que, dès le départ, ce sont des rencontres qui nécessitent beaucoup de sensibilisation pour arriver à convaincre les deux parties, à comprendre qu'effectivement, elles sont appelées à vivre ensemble, elles sont appelées à travailler ensemble, et à l'issue de ces rencontres, il y a beaucoup d'éléments qui naissent. Mais de manière aussi parallèle, nous organisons des rencontres séparées pour discuter directement avec ceux-là qui sont chargés de la gestion de l'air protégé, en leur démontrant non seulement les prescrits de la loi, mais aussi des cas de violation, pour arriver à trouver de compromis et de consensus ensemble.
D'accord, on va terminer avec la question de Jean-Claude. On va accueillir Jean-Claude Dekindou. Bonjour.
Oui, bonjour Jody. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, Jody, d'entrée de jeu, moi je salue l'initiative qu'a pris Maître Félix avec sa structure. Vous savez, ça c'est une problématique que nous devons aborder avec une très grande pertinence. Ce n'est pas tout simplement au parc national de Salonga. Vous savez, ici chez nous, au Maniema, on a eu la création de la parc de l'Omami, il y a à peine 5 ans, on a trouvé presque les mêmes difficultés. Les difficultés, ce sont lesquelles? C'est par exemple, la méconnaissance de la loi, comme il a bien mentionné, de la communauté locale et aussi l'État congolais, parce que les éco-gardes et les autres ne pensent pas vraiment, ils se croient peut-être être au-dessus de la mêlée, et la communauté qui a longtemps resté dans son terrain ne croit pas. Quand il voit les autres venir, il le prend comme les ennemis. Donc, il faut une forte sensibilisation de la part des autres et songer à se rendre sous d'autres cieux, qui ne se limite pas tout simplement au niveau de l'Équateur, au Grand Équateur. Nous avons le même problème au niveau des parcs et de la réserve d'Oku, vers Punia, où la même situation refait surface. Donc, de toutes les façons, nous devons nous mobiliser, et l'État congolais, et nous, les organisations de la société civile et d'autres partenaires, afin que nous puissions émettre hors d'état de nuire cette situation qui est dangereuse dans des jours à venir.
Et Jean-Claude, là-bas, autour de la Lomami, quelles sont les violations des droits de l'homme que vous avez enregistrées là-bas?
Bon, vous savez, les éco-gardes, peut-être ils ne sont pas outillés. Quand ils arrêtent les gens, il n'y a pas de sensibilisation. Parfois, ces gens sont fouettés. Bon, je ne dis pas, c'est par ignorance de la loi. Parce qu'une fois ici, ils sont sensibilisés, tout ira mieux. Il y a beaucoup de violations, mais moi, je dis que ce ne sont pas. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Mais une fois sensibilisés, tout le monde saura ses droits et ses obligations.
Bien, merci beaucoup. Maître Félix, vous avez la parole.
Oui, merci Jean-Claude pour cette réflexion très pertinente. Je crois que c'est ça en fait. Et l'ambition, c'est aujourd'hui, c'est pas seulement de s'arrêter au niveau du parc national des Salons, comme vous l'avez dit. Nous sommes en train de tester un mécanisme de règlement pacifique et négocié des différents conflits entre les communautés autour du parc national de Salonga. Et le grand travail, c'est d'apporter de l'information. Mmh. Mais l'ambition, c'est d'arriver vraiment à avoir un mécanisme au niveau national, un mécanisme mais qui prenne en considération les différentes réalités de l'air protégé. Parce que les réalités de la Salonga ne sont peut-être pas les mêmes que le parc national, ainsi de suite. Mmh. Et en fait, notre leitmotiv, c'est d'arriver à se dire que lorsque les communautés connaissent leurs droits, lorsque les gardes pas connaissent leurs droits, c'est alors qu'il y aura respect de la législation de part et d'autre. Et si les communautés connaissent leurs droits et leurs obligations, elles auront la facilité d'adresser les plaintes. Et en contrepartie, les agents de parc constate qu'il y a beaucoup plus de plaintes qui se présentent contre eux, ainsi de suite, ils vont automatiquement changer. Donc je pense que c'est un grand travail qui s'est fait, ce n'est qu'un début, le projet est encore en ses débuts, et nous pensons, nous souhaitons vraiment que les autres aires protégées puissent suivre le pas, mettre en place un mécanisme pour arriver à informer les communautés, à sensibiliser et à trouver des solutions négociées dans la gestion de l'air protégé.
Souvent, ces communautés qui sont autour des aires protégées, beaucoup n'ont pas les niveaux d'instruction et peut-être un bas. Comment vous faites? Vous les sensibilisez en langue locale?
Alors,
en langue locale?
Parfaitement. Alors, avec ces communautés, nous les sensibilisons en langue locale. Nous avons produit des outils de sensibilisation. D'abord, pour leur expliquer c'est quoi les mécanismes, c'est quoi les rôles qu'ils devaient jouer, c'est quoi le rôle des moniteurs communautaires. Mais nous les sensibilisons aussi sur leurs droits et obligations. Donc, nous produisons des outils spécifiques sous forme de dessins, ainsi de suite, mais qui sont vraiment adaptés au niveau local, en langue locale, et nous utilisons beaucoup de méthodes sous forme d'andragogie, ainsi de suite, pour assurer qu'effectivement le message passe, et nous assurons un certain accompagnement à travers notamment des enquêtes préliminaires, mais aussi des suivis après sensibilisation.
Bien, maître Félix Lila Kako, je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet Bengo, qui travaille pour le respect des droits humains des peuples autochtones autour des aires protégées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a-t-il un numéro, une adresse, lorsqu'il y a une violation quelque part, où les communautés peuvent appeler, se plaindre, tout ça?
Alors,
ce mécanisme existe déjà ou pas?
Ce mécanisme existe déjà. Il est en train d'être implémenté autour du parc national de Salonga. Tous ceux qui veulent contacter l'ONG Jurek peuvent écrire à l'adresse email jurek.conseil@gmail.com. Et là, à partir de là, nous allons recevoir leurs plaintes et voir comment nous allons les conseiller, parce que les mécanismes ne se substituent pas aux cours des tribunaux, mais est là justement pour faciliter la compréhension, pour faciliter les dialogues entre les communautés et les gestionnaires de leurs protégés.
Maître Félix Lila Kako, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Oh,